Are you racing or watching?
La Dismoudre. Ce soir, politique, culturelle et spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Grégoire Difior. Et l'équipe technique ce soir est composée de Jean-Michel Coquita, Bouclifa et Manuel Couturier. La réalisation signée Daniel Finot. Autour de moi pour cette dispute Dismoudre spéciale consacrée à la politique culturelle concernant le spectacle vivant en public du bar Le Bel Air à la Maison de la Radio, Nathalie Hennick, sociologue, directeur de recherche au CNRS, Arnaud Meunier, metteur en scène, directeur de la Comédie de Saint-Étienne, Michel Aurier, directeur de la musique et de la création culturelle à Radio France, et ma camarade Fabienne Pascaud, directrice de la rédaction de Télérama, je ne l'oublie pas assez souvent. Donc j'en profite ce soir, deux absents de dernière minute, ma camarade Lucille Como qui devait mener les débats avec moi, et Stéphane Hillel, acteur, metteur en scène, directeur général du Théâtre de Paris, co-directeur des Bouffes Parisiens et du Théâtre de la Michaudière, président de l'association pour le soutien du théâtre privé. Autant dire qu'il va falloir que je me fasse le porte-parole par quelques discours ou tribunes que j'ai pu accumuler du théâtre privé. Ce soir, les virus prolifèrent à Paris. Bon, il y aura quand même des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour l'exposition Romain Photo au MUCEM à Marseille.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Après du grain à moudre qui s'est interrogé sur la politique culturelle du gouvernement en matière de télévision, nous avons choisi de nous intéresser plus précisément au secteur du spectacle vivant, régulièrement menacé, critiqué pour des raisons bonnes parfois, mauvaises. Souvent, aucun gouvernement n'ayant véritablement remis à plat un système où se sont empilées les mesures, les labels au fil des années, des différentes politiques culturelles menées par les uns et les autres, né de la première décentralisation théâtrale au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Le paysage actuel est certes riche et divers, mais souffre de plusieurs maux. On va essayer d'y voir un peu plus clair ce soir, de faire entendre différents points de vue. Et pour espérer faire aussi un peu de prospective, alors un point d'histoire, professeur Michel Aurier, pour commencer peut-être. Oui, mais parce que vous avez dirigé deux grandes maisons de la culture, celle d'Amiens de 1991 à 2000, puis celle de Grenoble de 2002 à 2012. Vous avez été président du SYNDEAC, le Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles, ça c'était 99-2000, et puis président de l'Association des Scènes Nationales. Et puis, entre deux maisons, vous avez été de 2000 à 2002 conseiller technique chargé du spectacle vivant au cabinet de la ministre de la Culture Catherine Tasca. Puis, après la MC de Grenoble, vous êtes devenu directeur général de la création artistique au ministère de la Culture 2012-2015. Alors, c'est vrai que la DGCA, pour les intimes, c'est pas très connu du grand public, mais c'est quand même la maison très, 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 très importante du ministère de la Culture, là où beaucoup, beaucoup de choses se mettent en action, se décident aussi. Vous avez donc été à des postes d'observation et d'action très importants au cours du quart de siècle écoulé, pardon Michel, ça fait bien 25 ans et un peu plus.
C'est terrible.
Alors le premier point quand même, c'est pour un peu poser les bases de débat, pour vous, quelles ont été les grandes lignes d'évolution, les grands faits marquants de ces 25 dernières années concernant la politique culturelle, c'est bien de ça qu'on parle, concernant le spectacle vivant. Est-ce que ça va si mal aujourd'hui? Est-ce que ça allait si bien avant?
Non, d'abord, moi, le coup du « c'était mieux avant », là, pour le coup, je n'ai jamais été très sensible à cette chose-là. Et puis, comme je fais partie à la fois peut-être d'une génération, je ne sais pas, mais en tout cas de gens qui ont eu accès à la culture parce que ces politiques-là existaient, puisque moi, je suis picard, natif de petit village à côté d'Amiens, etc., je n'aurais absolument eu aucune chance d'avoir accès à ce qui est devenu ma vie s'il n'y avait pas eu cette décentralisation inscrite. Et je crois que c'est peut-être la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est formidable d'avoir un ministère de la Culture. Alors évidemment, sûrement, il y a toujours des tas de problèmes à régler, mais ce qui a changé peut-être dans toutes ces années quand même, c'est qu'il y a aujourd'hui une profusion de lieux, d'acteurs, de public, d'artistes évidemment, qui existe à travers le territoire, dans un pays qui a une spécificité qu'on oublie toujours, c'est l'identité de la France, comme disait Bordel, c'est 36 000 communes. C'est-à-dire quand vous êtes, s'il y avait un ministère de la Culture en Angleterre, il y a 800 communes. C'est pas du tout la même chose. 36 000 communes, s'adresser dans 36 000 communes à des populations différentes, avec tous les problèmes de rupture territoriale qu'on connaît aujourd'hui, qui sont des vrais problèmes, c'est pas la même responsabilité, ça se fait pas de la même façon. Donc peut-être ce qui a changé, c'est cette profusion-là. Ce qui a changé aussi, se comporte de façon peut-être plus difficile dans cette histoire de rupture, c'est le monde autour de nous, c'est-à-dire le poids compris des métropoles. 82% des emplois ont été créés dans 19 métropoles. Et le ministère de la Culture a assumé un investissement considérable, mais un peu trop parisien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les établissements publics qui ont été construits dans les années Lang Mitterrand, qui sont des outils formidables, magnifiques, mais l'ont été quasiment tous sur Paris. Et il y a, c'est vrai, un déséquilibre qui porte préjudice à l'action dans les territoires. Même si, encore une fois, c'est formidable de pouvoir disposer de tout ça.
Alors, on va pouvoir parler de Saint-Étienne avec Arnaud Meunier, mais d'ailleurs, vous êtes de quelle région, vous, Arnaud Meunier ?
Vous avez grandi où ? Né à Bordeaux et j'ai grandi en Charente, entre Cognac et Angoulême. Bon. Donc je me reconnais tout à fait dans le portrait que dresse Michel. Moi aussi, j'ai l'impression d'être un enfant de la démocratisation culturelle.
Alors, votre première compagnie est fondée en 97, 20 ans, bon anniversaire.
Merci.
Très vite remarquée, notamment au Festival d'Avignon, il m'en souvient. C'est quand même un moment que je vois vos spectacles. Soutenu rapidement aussi par le Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis. Et puis, très vite, vous entrez ou vous faites partie de l'institution maintenant en tant que directeur de la Comédie de Saint-Étienne, enfin maintenant depuis quelques années. Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, de l'évolution de ce paysage sur les 20 années de votre pratique ?
La Comédie de Saint-Étienne fête ses 70 ans cette année, donc c'est les 70 ans de la décentralisation théâtrale, donc c'est un beau symbole. On a été entièrement reconstruit et on vient de réouvrir un tout nouveau bâtiment. Donc ça, c'est, j'y verrai quand même un signe positif sur le fait qu'on continue à se dire que le mouvement n'est pas terminé, il y a toujours un élan, on peut toujours accompagner une dynamique. Vous dites, et c'est pas faux, effectivement, que la première fois qu'on a pu me découvrir, c'est au Festival d'Avignon, donc c'était l'édition 98, ma compagnie est venue en 97, c'était l'édition 98. On était 500 compagnies dans le off, donc aujourd'hui, je pense qu'ils sont 1200 ou 1300. Quand moi j'étais un jeune comédien que j'essayais les concours des écoles supérieures ont tenté le conservatoire Strasbourg et éventuellement la rue Blanche, aujourd'hui il y a 12 écoles supérieures de dramatique qui délivrent le même diplôme national supérieur professionnel de comédien,
dont celle de la Comédie de Saint-Étienne,
donc on a maintenant un maillage aussi assez extraordinaire de formation, hein, on sensibilise dès le plus jeune âge à l'art, en tout cas on essaye. Ensuite il y a la possibilité de pouvoir approfondir ça à travers des options théâtre par exemple au lycée, et puis il y a tout un tas de conservatoires avec des échelons plus ou moins importants. Et tout ça, ça crée un chaînon assez formidable qui fait que maintenant, il y a un désir aussi très fort de nouvelles générations pour avoir une pratique et avoir un métier. Et ça, ça change quand même beaucoup de choses parce que c'est le discours qu'on entend beaucoup, c'est de dire bah, maintenant, vous êtes quatre générations de metteurs en scène en France, donc c'est plus la même dimension. Et à ça, je réponds souvent, oui, mais alors du coup, on fait quoi ? Soit on ferme les écoles supérieures, soit on euthanasie les vieux. Mais je pense que on peut s'enorgueillir d'une certaine façon d'avoir quatre générations de mise en scène maintenant et d'avoir des langages maintenant qui se sont complètement renouvelés et d'avoir cette complémentarité, cette diversité extraordinaire. Il y a un foisonnement artistique qui est absolument magnifique en France.
Alors quand on vous dit il y a quatre générations, c'est le problème d'essayer que tout le monde puisse travailler dans les meilleures conditions à un moment où les finances ne semblent pas plutôt agrandir les cordons de la bourse mais plutôt les resserrer.
C'est le problème principal, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne ça ? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on accompagne ça ? Aujourd'hui, quand on forme un jeune artiste, on ne forme pas uniquement un comédien. On forme d'abord d'une part plus ce que j'appellerais un interprète, parce que l'art dramatique a tellement été transformé que ce n'est pas la même chose de jouer chez Alain Françon que de jouer chez Jean-Robert Wilde ou de jouer chez Julie Deliquet ou de jouer chez Claudia Stavisky. Donc le comédien, il doit être polymorphe. Mais aussi, surtout, ce qui a beaucoup changé, c'est que les jeunes artistes doivent être aussi en capacité d'être porteurs de projets. Donc ça veut dire que dans leur carrière, dans leur parcours professionnel, la plupart d'entre eux vont ou être amenés à fonder des compagnies, ou à participer à des collectifs, ou à un moment donné inventer quelque chose qu'ils vont porter eux-mêmes. Donc ça change profondément le contexte professionnel dans lequel on est.
Alors le contexte, il inclut évidemment le secteur privé du spectacle vivant. Donc Stéphane Hillel n'a pu venir, peut-être qu'il nous écoute et on le salue, on lui souhaite un prompt rétablissement pour dire que le théâtre privé lui aussi ne se porte pas si bien que cela. J'en réfère au dernier discours en date de Bernard Murat lors des rencontres de son syndicat national des théâtres privés, où il disait qu'effectivement il y avait une baisse du prix moyen, mais parce que les choses allaient pas forcément bien, que leur économie aujourd'hui était elle aussi fragile. On viendra sur les choses qui ont été dites à Avignon l'été dernier, en présence notamment de Stéphane Hillel. Mais c'est vrai que quand on lit le discours de Bernard Murat, on voit à quel point le vocabulaire qu'il emploie est un vocabulaire qui plutôt entrepreneurial. Il parle d'amortir, oui, d'entreprise, une grammaire qui fait penser à une grammaire du monde de l'entreprise. Est-ce que vous, qui dirigez la Comédie de Saint-Étienne, Arnaud Meunier, vous devez aussi avoir ce type de discours et de vocabulaire? Vous êtes un entrepreneur aussi ou pas?
Alors, je pense que d'abord, historiquement, les pères de la décentralisation ont d'une certaine manière été des entrepreneurs. Il ne faut quand même pas oublier ça, que Jean Villard fonde le Festival d'Avignon sur ses propres deniers, etc. Donc, il y a tout le début du mouvement de la décentralisation qui se fait sans subvention. Donc, il faut toujours avoir ça un petit peu en tête. Mais sinon, effectivement, dans un contexte où les subventions n'évoluent pas ou très peu, ou même on est dans un contexte où les collectivités peuvent être amenées à baisser leur soutien à tel ou tel lieu, c'est vrai que la part des recettes propres est devenue de plus en plus importante. Et donc, ce sont les lieux qui produisent, qui, on va dire, trouvent le plus d'oxygène parce que par la diffusion, donc par la vente des spectacles, par les tournées, c'est là où on arrive à trouver l'oxygène qui nous permet de rester à flot ou de continuer même à développer le projet. À Saint-Étienne, mes recettes propres sont passées de 18% à 30% sous ma direction. Et évidemment, c'est là que l'oxygène est. Donc on tourne, nous, entre 150 et 200 dates par an. Je pense qu'on est un des centres dramatiques qui tournent le plus. Et c'est vrai que c'est là où on trouve notre capacité à inventer des projets, parce que c'est en trouvant ces recettes nouvelles qu'on aide aussi les autres et qu'on aide notamment les projets plus fragiles. Donc d'une certaine manière, oui.
Oui. Fabienne Pascoe, dans le cadre des rencontres de Télérama au Rond-Point, vous avez longuement interrogé lundi dernier, 11 décembre, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Alors sur la question du spectacle vivant, il y a ce que l'on croit savoir, ce que l'on sait, puisqu'elle vous a dit. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ce qu'a pu vous dire Françoise Nyssen sur la question qui nous importe ce soir et qui vous importe tant aussi?
Françoise Nyssen parle beaucoup de culture, de proximité, et ça, c'est très bien, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Michel Aurier. On a perdu un petit peu le lien avec le public, et la culture, les financements de la culture s'intéressent surtout à Paris, à ce qui peut se passer à Paris. D'ailleurs, Françoise Nyssen, les gros investissements du ministère, ça va être la Cité du Théâtre, hein, avec le Conservatoire, l'Odéon et la Comédie Française dans le 17e, ça va être le Grand Palais. Et finalement, tout ce qui se passe à l'extérieur, on parle du Grand Paris, on parle, mais qu'est-ce qui se fait là-bas comme vrai investissement du ministère? Donc, bon, moi je trouve que y a un manque de choix. Françoise Nyssen, c'est formidable ce qu'elle dit sur l'éducation artistique. C'est vrai qu'elle s'inquiète du public, mais moi, je suis un petit peu... Je trouve que le ministère de la Culture, je ne comprends pas bien ce qui fait l'essentiel de la politique culturelle aujourd'hui. Je ne la trouve pas très lisible. Et certes, on a vu à l'émission tout à l'heure que c'est compliqué, il n'y a pas de culture à la télévision, mais est-ce qu'on se préoccupe du public aujourd'hui? Je trouve qu'elle essaye, Françoise Nyssen, de faire une culture qui recrée du lien social. Jacques Lang, c'était le ministre des artistes. Et du coup, eh bien, finalement, on a plongé dans un élitisme de la culture qui, à mon avis, n'est pas pas forcément bénéfique à cette culture. Là, maintenant...
Mais depuis, on a eu des retours de balancier. Oui. François Nissen parle de culture des territoires, mais Renaud Donne-Dieu de Vabre disait la même chose il y a une dizaine d'années.
Oui, mais finalement, on se rend compte qu'il n'y a, plus vraiment de, il y a plus vraiment de public, aussi bien dans le privé que dans le, aussi bien dans le théâtre privé que vous évoquiez tout à l'heure que dans le théâtre public. Il faut le chercher, le public. Il faut, le public, il n'est pas aussi bête que veut le croire le théâtre privé parfois, et il n'est pas aussi exigeant que veut le croire le théâtre public parfois. Donc, il faut se préoccuper vraiment des gens. Et là, par exemple, je prends le cas, les centres dramatiques qui ont des cahiers des charges qui sont les mêmes, hein, pour la trentaine de centres dramatiques, qui ne sont pas du tout adaptés forcément aux réalités régionales et locales que vivent ces centres dramatiques. Là aussi, il y a une méconnaissance du public, ce saupoudrage. On fait des créations qui durent 3 ou 4 jours, par exemple. Le public n'a pas le temps de venir, le bouche à oreille n'a pas le temps de venir. Tout ça, ça coûte cher. Ça ne... On ne pense pas au public, au spectateur. On n'en tient pas assez compte, je trouve.
Alors, ce sont évidemment des questions sur lesquelles nous allons nous arrêter parce qu'elles sont importantes, notamment la question de la durée d'exploitation des spectacles, de leur tournée. Mais je voudrais quand même me tourner une première fois vers Nathalie Hennick, dont le terrain privilégié est quand même celui des arts plastiques, mais c'est votre domaine de recherche favori. Mais ces questions qui nous agitent ici, elles résonnent évidemment. On parle d'art et on parle de culture. Qu'est-ce que vous entendez là tout de suite à Nathalie Hennick dans ce qui vient de se dire ?
Ce que j'entends, c'est qu'on peut en effet se féliciter qu'il y ait eu une telle augmentation de l'offre culturelle, notamment en matière de spectacle vivant. C'est une des grandes avancées de la politique culturelle depuis 40 ans. Mais je pense que le vrai problème, c'est la stagnation de la démocratisation culturelle et que la vraie mission d'un ministère de la culture, c'est avant tout de faire en sorte de faire accéder à la culture des gens qui, par leur famille, ne peuvent pas y accéder ou n'ont pas l'appétence pour y accéder. Et là, je pense qu'il y a un énorme échec, il y a beaucoup de choses à faire. Et malheureusement, les solutions qui ont été proposées pour affronter ce problème qui a été diagnostiqué depuis au moins une génération sont des solutions totalement inopérantes qui consistent à augmenter l'offre culturelle. Toujours plus de spectacles, toujours plus d'expositions, toujours plus de propositions qui vont simplement permettre à ceux qui ont déjà accès à la culture d'y aller encore plus, mais qui ne vont pas permettre à ceux qui n'y ont pas accès d'en avoir le goût et la possibilité. Donc là, je pense qu'il faut complètement modifier les choses, arrêter de faire plaisir. Alors, je suis très contente pour les créateurs et pour les programmateurs et pour les artistes qu'ils aient des tas d'occasions de faire des choses, mais je pense que c'est pas la priorité pour le ministère de la Culture aujourd'hui. La priorité, ça doit être absolument la question de la démocratisation qui passe d'abord par l'éducation populaire, et je trouve très dommage que tout le réseau d'associations d'éducation populaire et de maisons des jeunes et de la culture qui avait été tellement important dans l'après-guerre, dans les années 60, ait été quasiment démantelé. Alors, ça n'est pas du ressort administratif du ministère de la Culture, mais je pense que le ministère devrait faire en sorte d'aider au maximum, parce que c'est là que se passe la possibilité d'accéder à des publics qui ne vont pas dans les grands établissements dont nous sommes en train de parler. Donc il faudrait que le ministère apprenne à sortir de son périmètre pour aller là où normalement il ne peut pas aller, mais où il devrait pouvoir intervenir, donc l'éducation populaire d'une part, d'autre part, l'éducation nationale, et je pense qu'en ce moment, il y a une vraie dynamique de la part des deux ministres concernés. Il n'est absolument pas normal que des élèves ne puissent pas, au moins une fois par an, aller voir un spectacle de théâtre, aller voir un concert, aller dans un musée. Ça fait partie de ce que devrait être la mission de l'éducation nationale, aidée par le ministère de la Culture, qui devrait aider à ce type de familiarisation. Et puis la télévision, on en a parlé dans l'heure qui précède, qui devrait aussi être le lieu par excellence où on permettrait à des gens qui n'y ont pas accès par leur famille de pouvoir se familiariser avec des œuvres et ensuite d'avoir envie d'utiliser éventuellement ce fameux pass culture qui nous est proposé, qui va dans le bon sens, au sens où il va dans le sens de s'intéresser pour une fois, il s'agit de s'intéresser d'abord à la question de la démocratisation, c'est-à-dire non pas du public, ce qui ne veut rien dire du point de vue sociologique, mais des publics. Parce que s'intéresser au public au singulier, c'est s'intéresser aux ressources propres, au fait d'avoir le maximum de financement, etc. Mais quand on parle en termes politiques, une politique culturelle, c'est une politique qui consiste à varier les publics, à les diversifier et à donner à ceux qui n'ont pas la culture par leur famille les moyens d'y accéder. Donc il faut vraiment une politique qui aille vers les publics. Et de ce point de vue-là, je pense que commencer un ministère par essayer de faire en sorte que des jeunes puissent accéder à la culture, c'est très bien. Le problème, on en reparlera, c'est qu'il s'agit simplement d'argent. Or, le problème n'est pas l'argent, on le sait très bien. Le problème, c'est la culture familiale.
Peut-être rappel, Fabienne Pasco, le Pass Culture, ça a été fait en Italie, ça n'a pas rencontré un succès
marché,
formidable.
Je crois qu'ils vont l'arrêter en 2018. On alloue une somme 500 euros aux jeunes de plus de 18 ans pour qu'ils puissent s'acheter des produits culturels. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Nathalie Hennig. D'abord, c'est une posture individuelle. Or, la culture, ça peut se consommer, notamment pour le spectacle vivant, ensemble. Là, les jeunes en Italie, ils revendaient même les passes au marché noir, et la plupart d'entre eux, ça n'a été même utilisé qu'à 60%, parce que pour ceux qui habitaient dans des endroits où il n'y avait pas du tout d'équipement, qu'est-ce qu'ils pouvaient s'acheter, de quoi ils pouvaient profiter. Donc moi, vraiment, ça va coûter 5 millions d'euros, je crois, ce pass. J'aurais préféré qu'il soit investi autrement.
Alors revenons sur cette question, effectivement, de comment élargir les publics, enfin tout le constat dressé par Nathalie Hennig qui n'est pas nouveau, qui date effectivement bien d'une génération. Il y a plusieurs pistes, j'imagine, Michel Aurier, quand on est à la DGCA, cette grande maison, Direction Générale de la Création Artistique. Ce constat, on le connaît, on essaye des choses. Alors Nathalie Hennig qui dit qu'il faut en faire encore plus, alors que le ministère a déjà beaucoup à faire.
Je pensais il y a plusieurs choses. C'est un peu l'histoire du verre à moitié plein, du verre à moitié vide. C'est-à-dire il y a beaucoup de public quand même dans les salles, déjà. Il faut le dire.
Au singulier, beaucoup de public au singulier. Beaucoup, mais quels sont les publics au pluriel?
Attendez, mais justement, je peux poser la question à la sociologue que vous êtes, parce que le drame des acteurs culturels et du ministère, c'est d'avoir finalement relativement peu d'études des publics. Il y a des études de public, mais qui ne concernent pas les établissements. Il y a très peu d'études. Et moi, que je me souviens quand je me retournais vers le DEPS pour avoir, enfin, vers
département études et prospectives du ministère de la culture.
Le département qui fait les études à l'époque au ministère de la culture. En gros, on me disait, on n'est pas là pour faire le marketing des établissements culturels. C'est quand même. Et le problème, c'est pas un problème de marketing. Le problème, c'est de savoir qui sont les gens qui sont dans les salles. Or ça. Je suis désolé, il y a très peu d'études sur la question.
Dans les
malheureusement,
musées, dans
parce
les musées, il y en a beaucoup.
Dans les musées,
les musées
plus,
les
ouais.
font faire.
Mais pas dans le spectacle.
Ouais. Bah, ils n'ont qu'à les faire faire.
Pas dans, oui, non, mais,
c'est pour ça que Regina Tchando voudrait un observatoire.
Ça, je crois que la question de l'observatoire, elle est centrale. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est juste un peu pour tempérer ce que vous dites, parce que je préférerais qu'on parle sur des choses vraiment avec une base scientifique avérée. Mais à part ça, c'est vrai, la question du renouvellement des publics, elle est centrale. Aujourd'hui, on le voit, enfin, nous, à la radio, c'est une question qui est centrale, ça c'est clair, hein, mais dans les salles de spectacle, elle est centrale aussi. C'est pour ça que tous les établissements, d'ailleurs, développent beaucoup de choses vers les jeunes, vers les nouvelles générations, etc. Mais je crois que c'est sur cette question-là qu'il faut trouver des voies. Alors aujourd'hui, il y a effectivement cette idée de faire un pass culture qu'il faut éditorialiser, qu'il faut arriver à cerner pour qu'il soit utile, comme il a été fait d'ailleurs dans certaines régions, etc. Mais au-delà de ça, c'est vrai que la question de l'éducation nationale, elle est très très importante. La question de la prescription quand on est petit, qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un morceau de musique, quel qu'il soit d'ailleurs, hein. Et puis de ce bouleversement qu'est le nôtre et qu'il faut suivre. Je prends un exemple tout bête, mais Johnny Hallyday est mort la semaine dernière, mais quelques semaines avant, on a appris que le hip-hop était aujourd'hui le principal genre musical consommé, entre guillemets, en France, et plus le pop-rock. Donc cette mutation de la société, elle est permanente, et c'est à cette mutation permanente qu'il faut savoir répondre pour pouvoir s'adresser à des publics nouveaux et différents. Et donc c'est une question très profonde, qui est compliquée à gérer. Et je voudrais juste terminer en disant que ça n'est pas le seul ministère de la Culture qui peut répondre à cette question-là. Il n'est plus du tout, et fort heureusement, le seul acteur sur la question. Toutes les collectivités sont très impliqués dans les politiques culturelles aujourd'hui. Et je crois que cette question des publics, si elle nous revient avec cette force-là, c'est parce qu'on a le devoir d'y répondre. Cette césure qu'il y a aujourd'hui entre les grandes villes, les métropoles qui sont dotées de beaucoup de moyens et toutes ces zones blanches, entre guillemets, dans lesquelles vivent beaucoup de gens qui, eux, ont accès à relativement peu de choses, ça doit nous interroger, ça doit nous faire bouger et ça doit nous décider à travailler vers eux.
Ce qui veut dire qu'il ne faut pas travailler sur l'offre des établissements qui existent déjà. C'est pas là qu'il faut travailler, au contraire. C'est une offre diversifiée du point de vue de la décentralisation et surtout la création d'une demande, et c'est là qu'il faut travailler, me semble-t-il.
Alors, un mot de Fabien Pascaud, et puis on revient vers Arnaud Meunier.
Oui, mais j'en profite. Bah, de toute façon, Arnaud Meunier, je vais le féliciter, parce qu'il y a un petit peu de responsabilité aussi des artistes par rapport au public, au pluriel. Parce que si les artistes ne font pas l'effort de mettre eux-mêmes sur scène la diversité, comment les publics différents peuvent se sentir représentés, incarnés. Arnaud Meunier, avec Stanislas Nordet et Stéphane Braunschweig, ils ont fait toute une formation pour les comédiens de la diversité.
Issus de la diversité, comme on dit maintenant.
Voilà, exactement. Mais si les artistes eux-mêmes ne font pas cet effort, s'ils n'essayent pas de convoquer sur le plateau
des
acteurs, toute la société, comment la société peut-elle venir ?
Arnaud Meunier.
J'ai pas osé interrompre mes camarades, là, mais c'est vrai que j'ai très envie d'emmener ma camarade sociologue un petit peu à Saint-Étienne, et puis au-delà de Saint-Étienne, dans les centres dramatiques nationaux de manière générale, parce que je bouillais sur mon fauteuil, parce que je peux vraiment pas laisser dire. D'abord, je suis vraiment contre cette idée que la démocratisation a échoué. On en a commencé comme ça avec les statistiques, si vous voulez. D'abord, comme on a dit, il y a très peu de statistiques sur le spectacle vivant, et deux, même quand on montre que, par exemple, le pourcentage de classe populaire reste à peu près stable, étant donné que la population française, elle, augmente constamment d'année en année, donc ça veut dire qu'on augmente les publics, y compris les classes populaire. Donc il faudrait arrêter à un moment donné avec des tartes à la crème et aussi sur les questions de offre et demande, parce que les choses sont complémentaires. Donc à un moment donné, on ne peut pas non plus sortir comme ça et rabâcher constamment ces choses qui paraissent
être mesurées par les enquêtes culturelles des Français du ministère de la Culture.
Venez dans les salles et sortez de Paris, parce que là pour le coup, s'il y a un point d'accord, c'est qu'effectivement le ministère de la Culture est très centré sur Paris. Fabienne Pascaud a parfaitement raison de dire qu'on ne peut quand même que s'émouvoir de voir que les prochains grands investissements sont à nouveau parisien, même s'il est clair que le conservatoire, la Comédie Française, etc., ont des sujets importants et que le conservatoire doit pouvoir se développer. On ne peut pas former les interprètes aujourd'hui comme on les formait il y a 50 ans et c'est naturel. Mais que donc du coup, ça pose bien de manière globale quel élan pour la politique culturelle dans ce pays. Et effectivement, comme l'a dit Michel Aurier, cet élan ne peut pas être porté que par le seul État et que les collectivités doivent effectivement être aussi à cet endroit-là. Mais les salles, on ne peut pas dire que dans les salles, le public est unique. Alors ça, c'est vraiment pas possible. Parce que, notamment, tous les lieux labellisés, les centres dramatiques nationaux, mais les scènes nationales aussi, grosso modo, les lieux qui reçoivent de manière importante de l'argent par l'État, mènent un travail sur les territoires à destination des publics éloignés socialement ou géographiquement de la culture et de la création, considérable. Mais vraiment considérable. Et donc, je pense que ce travail-là, il est un cœur battant. Et puis, pour rassurer Fabienne, les centres dramatiques, c'est pas tant qu'ils ont un cahier des charges. On a un contrat de décentralisation qui nous lie à la ministre, mais on peut se dire quand même que on écrit un projet maintenant quand on est candidate. Hein, ça a beaucoup changé tout ça. Hein, maintenant,
ça peut être très différent d'une région à l'autre.
Ça peut être très différent. Je pense qu'il suffit de regarder le projet de Philippe Ken à Nanterre. À mon avis, n'a rien à voir avec le projet de Cécile Baquès à Béthune
ou de Bellorini à
ou de Vincent Carangé et de Pauline Salle à Vire. Se dire qu'il y a un centre dramatique national à Vire, le travail qui est fait sur les auteurs vivants à Vire est assez exceptionnel, assez considérable. Et ils arrivent à avoir dans leur salle trois fois la population de Vire. Donc je pense qu'il faut quand même un petit peu, à un moment donné, dire que ce qu'on a fait, ce que la France a construit globalement depuis l'après-guerre, c'est quand même assez exceptionnel.
Concernant les collectivités territoriales, Michel Aurier a en parlé, vous aussi, Arnaud Meunier, parmi les pistes visiblement de réflexion du ministère de la Culture, il y a le fait que pourrait y avoir un guichet unique de subvention au niveau régional pour les compagnies de théâtre, compagnies de danse, qui pourrait y avoir un soutien plus sélectif aussi à la création. Et du coup, ce rôle d'arbitre ou d'arbitrage des collectivités territoriales, qui a longtemps quand même été décrié dans le milieu du spectacle vivant. Je me souviens de débats assez houleux, notamment au Festival d'Avignon. On dit « Oh là là, c'est pas mon président de région qui va décider ce que je vais programmer ». On a quand même le sentiment que la tendance s'inverse. Alors, pour les arts plastiques et les fonds régionaux d'art contemporain, la situation est assez explosive. Vous me le confirmez, Nathalie Hennig, c'est pas simple. Mais dans le spectacle vivant, ça ne l'est pas non plus. Fabienne Pascaud pour avoir... Non, Michel Aurier qui passe sur son micro.
Je pense que c'est typiquement le genre de l'heure que la profession aime lever pour pas se poser les vrais problèmes qui se posent à elle. Le système a continuellement évolué, ça n'a pas empêché le nombre de compagnies de croître. Le vrai problème, à mon avis, il n'est pas là. Le problème, il est dans le nombre de représentations qu'on fait par spectacle. Tout le reste, c'est du
débat, à mon avis. On en revient à cette question-là. Est-ce qu'il y a trop de spectacles qui tournent trop peu ?
Il y a deux sujets qui sont très importants. Il y a ce que disait Fabienne tout à l'heure et que ce à quoi Arnaud répond à Saint-Étienne, ce que Claire Lane d'Arcueil essaie de faire au conservatoire, on a parlé de Stanislas Nord, etc. C'est-à-dire de faire en sorte que sur les plateaux de spectacles vivants, on voit une représentation du monde, que le miroir qui est devant nous ressemble au monde dans lequel on vit. On en est très loin dans le domaine du théâtre. On en est très loin dans le domaine de la musique, très 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 loin, de musique classique, évidemment pas sur la musique de variété, comme par hasard. On n'y est pas sur le domaine de la danse, il est beaucoup plus mélangé. Mais c'est à mes yeux, un sujet beaucoup plus essentiel que de savoir si c'est un comité Théodule ou Tartampion qui va décider de soutenir tel ou tel créateur. Ça, franchement, je pense que tant qu'on s'attache à ce genre de choses, on ne progresse pas. Et puis l'autre question, c'est que plus vous jouez, plus vous rencontrez de public, plus vous passez par le bouche à oreille et par la relation directe, physique, et qui n'est pas du tout immatérielle dans ce monde qui est en train de devenir immatériel, là, vous allez créer une vraie relation publique qui peut se développer, et qui peut se développer naturellement et de façon beaucoup plus large, et qui va toucher des gens radicalement différents. Parce que plus vous allez séquencer les spectacles sur des durées très courtes, plus vous allez faire surconsommer des populations qui vous sont acquises. Et je pense que c'est plus sur ces questions-là qu'il faudrait se poser la question que sur savoir si ça va toujours être des comités d'experts qui vont être détenus par un tel ou par un tel. Finalement, vous savez, quand vous avez du talent, quand vous avez l'envie, quand vous avez l'énergie, et c'est le cas dans tous les territoires, on a des artistes formidables, il y a des compagnies superbes, il y a des orchestres magnifiques, etc. À un moment donné, la musique surgit, le théâtre surgit, la danse, etc. Moi, je ne suis pas inquiet du tout de cette chose-là. C'est plus le reste qui m'inquiète.
Il n'empêche qu'on a quand même plus tendance à avoir confiance en l'État pour arbitrer que dans une relation de pouvoir et de proximité. Enfin, c'est un propos un peu général, Christian. Ça change très, très, très doucement. Il me semble que l'État est plus légitime.
Légitime puisqu'il finance à un tiers. C'est les collectivités locales qui financent à deux tiers, je crois, maintenant. Donc, qu'est-ce que l'État peut dire s'il n'a plus les moyens de...
L'État a le recul national.
Qu'est-ce qu'il peut exiger ? L'État, il faut qu'il soit une autorité morale.
Mais il l'est quand même, il est demandé. L'État, vous savez, les élus... Enfin, moi, quand je discutais avec quand j'étais au ministère de la Culture, et je discutais avec des élus des territoires, les élus avaient envie d'entendre, de discuter, d'avoir l'expertise de l'État, parce qu'il y a ce recul national qui est nécessaire. Ça, je pense que... On trouvera toujours 3 ou 4 exemples disruptifs ici ou là qui font que ça marche pas. Mais il y a quand même des dizaines de milliers d'élus à travers le territoire qui sont mobilisés sur les questions culturelles.
Ça, c'est évident. Mais alors, Arnaud Meunier, pour revenir à cette question, est-ce que allonger la durée des représentations des spectacles, ça peut amener des nouveaux publics ? Si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Ça pose problème à quel niveau ?
Parce qu'il y a trop de compagnies.
Alors. Fabienne Pascaud a soufflé une réponse.
Non, je ne partage pas cette réponse. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. D'abord, il y a une expression qui est très à la mode en ce moment, c'est le « en même temps ». Hein. Alors du coup, je vais faire un peu de macronisme, je vais dire pourquoi c'est « en même temps ». C'est-à-dire que d'une part, c'est vrai qu'il faut que l'État travaille avec les collectivités et avec les professionnels. C'est-à-dire que le sujet actuellement, c'est d'arriver à trouver des points de jonction, de manière à ce que quand on soutient un artiste, tout le monde abonde un peu dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui puisse trouver une forme de synergie. Ça, c'est extrêmement important parce que sinon, on a un éparpillement et un saupoudrage. Et là, effectivement, on peut avoir un effet où les collectivités locales peuvent avoir tendance à nous pousser à privilégier le nombre de kilomètres qui nous séparent des artistes et non pas leur rayonnement ou leur intérêt artistique. Et là, effectivement, ça, c'est désastreux. Donc, il faut avoir ces points de dialogue entre professionnels, collectivités et État. à partir de ça, l'État, par contre, effectivement, doit jouer son rôle sur le fait d'arriver à tenir ce qui est quand même le cœur d'une politique culturelle. Mais effectivement, comme le dit Fabienne, dans la mesure où financièrement il est en recul, c'est délicat.
Il n'est pas en recul. Hein.
J'ai l'oreiller.
Parce que ça, c'est pareil.
Alors, je vais dire différemment. L'État ne suit, le financement actuellement de la politique culturelle ne suit pas l'élan formidable dont on parle depuis le début de l'émission.
Voilà,
c'est-à-dire qu'avec autant d'artistes actuellement et avec des formations, avec tout ce mouvement-là, il devrait y avoir une augmentation généralisée des budgets pour la culture. Ça ne suit pas.
Ça se fait sans fin. C'est-à-dire que plus il y a de budget, plus il y a d'artistes, et plus il y a d'artistes, et plus
il faut choisir pour faire tourner les rôle d'un ministre.
C'est ce qui se passe depuis 40 ans. Et ça a fait énormément d'artistes, ce qui est très bien. Ça a fait énormément de spectacles, ce qui est très bien.
Et ça fait énormément de public aussi, chère madame.
Oui, mais ça fait aussi rien du tout, ou très peu de choses, encore une fois, sur la démocratisation culturelle. Et je suis désolée, une politique culturelle ne doit pas être au service des créateurs. Elle doit faire les deux.
Une politique culturelle doit accompagner les créateurs en même temps, les créateurs et les publics. Mais bien sûr. C'est-à-dire que, parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive à trouver des nouveaux publics? Vous devez mettre en contact des artistes, en contact direct avec les populations. C'est la mise en résidence. C'est le temps long.
Ou en contact indirect, notamment par la télévision.
Et en plus, pour aller dans votre sens. On doit absolument sortir de ce débat absolument stérile entre d'un côté l'éducation populaire et de l'autre côté le théâtre d'art. C'est-à-dire la France là-dessus est dans une chose qui me paraît complètement stérile et incohérente. C'est évidemment dans l'union des forces et des mobilisations et des formes de militantisme d'une certaine manière que on trouve des solutions et on trouve en plus des projets qui artistiquement peuvent être passionnants.
D'où le fait que le rôle aujourd'hui du ministère de la Culture devait être de travailler beaucoup plus en direction de l'éducation populaire, parce que ce qui a été fait pour les créateurs est déjà énorme et c'est plus là où il faut travailler. Et par ailleurs,
il faut faire les deux.
Sauf que depuis 40 ans, on a fait surtout l'un. Et par ailleurs, je trouve que, pour revenir au débat sur la télévision, il est absolument anormal qu'il n'y ait pas, à des heures de grande écoute, des représentations, des restitutions, des captations de spectacles, de concerts, etc. C'est quand même un moyen d'éducation populaire extraordinaire, et on n'est pas fichu d'avoir une télévision publique qui nous offre ça. Et là, pour le coup, l'idée qui est une honte de la télévision publique, là, je suis d'accord.
Oui, mais c'est très difficile de bien filmer une représentation, un opéra, ça peut être mortel d'ennui.
Il faut revenir sur le nombre de compagnies, parce qu'on a un peu glissé, mais comme c'est important de se dire que donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour augmenter la diffusion, d'accord ? Donc, effectivement, si on veut développer les publics, il faut quand même que les représentations ne soient pas toutes captées par un public d'abonnés, de sachants, qui ont déjà le goût, etc., etc. Parce que c'est dramatique si jamais on en est à se dire il n'y a pas de place, etc., vous n'allez jamais trouver des nouveaux publics. Donc il faut effectivement que les séries s'agrandissent de manière à pouvoir toucher d'autres spectateurs et prendre le risque ensemble de l'inconnu et de la création.
Oui, mais si les séries sont plus longues et que les salles sont moins pleines, ça a un coût.
Alors, ça peut avoir un coût.
Non, je pose une question.
Non, ça se discute. Le problème, c'est pas de passer de 98% à 34% de remplissage. Le problème, c'est d'arrêter.
Ah, ça peut arriver.
Non, mais il y a une sorte de... Vous savez, chez beaucoup de directeurs, et je leur jette pas la pierre quand je dis ça, j'en ai été un, il y a une espèce de phobie, d'addiction à la salle pleine.
C'est pas le ministère qui leur a demandé ça ?
Non, même pas. Je pense qu'il y a une espèce de chose qui s'est installée, qui est très consumériste.
On exhibe ces taux de fréquence, ces taux de remplissage.
Je pense que le sujet, il n'est pas là. Le sujet, vous savez, si vous êtes...
Le lever de rideau coûte de l'argent, Michel Laurier, ça se pose un problème en fin d'année.
Le théâtre privé ne fait pas son point mort sur une salle qui est pleine à 80%. Sinon, ils seraient tous morts. Ce n'est pas vrai. Le coût de plateau dans le théâtre privé, alors je ne le connais pas par cœur, Stéphane Niel n'est pas là, il pourrait nous le dire, mais il est peut-être à 40, 45 points de la salle, peut-être à 60, j'en sais rien. Enfin, c'est des débats qui ont l'air un peu techniques, je pense.
Non, mais c'est important.
Mais en tout cas... On peut.
Il y a de moins en moins d'acteurs sur les plateaux.
Et tout ça, oui, mais enfin, c'est des acteurs qui peuvent être payés parfois le prix d'une compagnie entière. Mais,
c'est vrai.
Mais indépendamment de ça, je pense que tout ça ça s'étudie, ça se résout, et on peut tout à fait travailler sur une économie qui permet de jouer plus longtemps. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important et qui peut permettre d'avancer. Je reviens juste sur l'histoire de la télévision, parce que, on accuse toujours la télévision de tous les maux, peut-être, je ne sais pas, bon. Moi, je pense que le problème, il n'est plus du tout à la télévision. Il y a 10 ans, sur les smartphones n'existaient pas. Et aujourd'hui, on écoute la radio, on regarde des vidéos, enfin, je veux dire, on a des réseaux sociaux, on est interpellé par des pushs sans arrêt sur tel ou tel sujet. Ce sont des outils que toutes les jeunes générations utilisent de plus en plus tôt et sur lesquels on a aussi à inventer une sorte de langage qui permette de faire le pont pour découvrir un certain nombre de choses. Moi, je partage ce que vous dites sur ce qu'était l'éducation populaire. Vous savez, dans ma petite ville, il y avait une MJC. Mais c'était il y a tellement longtemps, madame, tellement longtemps. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la solution, elle passe par une nouvelle MJC. Ou alors, il faut les réinventer, comme le fait Didier Fusilier à la Villette, avec ce qu'il envoie dans les territoires, qui sont des sortes de plateaux connectés sur lesquels on peut...
Voilà, folie.
C'est cette chose-là qu'il faut... Je pense qu'il faut qu'il y ait des initiatives qui soient portées et qui puissent permettre d'utiliser ce qu'est le langage d'aujourd'hui, ce qu'est la réalité des outils d'aujourd'hui, pour faire en sorte que cette chose qui est immémoriale et à la fois archaïque et toujours d'une modernité formidable, qui est la création, puisse toucher tout un chacun. C'est ça le travail de la politique publique, c'est d'être au service de tous les publics et de s'en donner les moyens.
Ouais, mais là, qu'est-ce qu'une action gouvernementale peut faire pour passer de regarder un teaser, puisqu'on appelle ça comme ça sur son smartphone, à rentrer dans une salle de spectacle pour découvrir le temps long de la représentation, un partage commun? Fabienne Pascaud, pardon.
S'adapter. Le ministère de la Culture, il fonctionne à peu près grosso modo comme sous Malraux. Hein. Est-ce qu'il a beaucoup changé? Est-ce qu'il a beaucoup évolué? La société française change, le monde change, et le ministère, il est structuré comme il y a 20 ans, ça bouge pas. Il y a une espèce de hiérarchie énorme qui en pyramidale, alors que la société maintenant vit en réseau. Donc moi je le trouve, ce ministère, il correspond plus à la vie culturelle, à la vie artistique, à ces publics qu'on veut conquérir. Il est hors sol.
Moi, je vais dire encore une évidence, mais on a quand même un public captif extraordinaire à disposition, qui est le public scolaire. On sait que c'est dans l'enfance que se crée l'appétence pour la culture. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas davantage cette possibilité d'amener des élèves, ou éventuellement de leur montrer des choses via des
Et vous vivez des où captations. Exactement? Ça m'intéresse quand même. Parce que les scolaires, ils sont vraiment présents dans nos salles.
Je sais bien,
même de temps en temps, on nous le reproche.
Est-ce que tous les élèves, dans tous les territoires, dans toutes les communes, sont amenés régulièrement à avoir un contact immédiat, réel, avec des œuvres d'art dans les musées, avec des concerts,
les
avec
musées sans doute
des pièces,
moins.
Etc.
Mais d'où l'intérêt de ce rapprochement entre l'éducation nationale et la culture.
Absolument.
On a eu le plan Langue Tasca il y a quelques années.
Oui, mais ça n'arrive que quand les ministres s'entendent.
Oui,
et
là,
le président
il y a
un intérêt
une
pour la
très
question,
belle entente
quand même.
Entre Jean-Michel Blanquer et Françoise
Nyssen. C'est vraiment ce qu'on appelle de nos voeux.
Voilà, et j'ai l'impression que là, il y a une dynamique à l'œuvre. Enfin, on les voit beaucoup ensemble en train de pousser à toutes ces choses-là. Le plan choral sur les 60 000 établissements scolaires, d'ailleurs, Radio France participe. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Je pense que, là, encore une fois, la prescription dans les écoles,
le président Chirac, dans son premier mandat, me semble-t-il, avait fait une cause nationale. On a vu les effets que ça a produit. À peu près rien. Il a démantelé les classes à Pâques, enfin, tous ces plans qui existaient.
Je n'ai pas le souvenir que le ministère de la Culture se soit beaucoup battu pour faire en sorte d'aider à ce processus-là.
Donc là, on est heureux, effectivement, Françoise Nyssen vous l'a dit l'autre soir, rencontre formidable entre elle et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Donc il y a effectivement.
Qu'elle se laisse dévorer par Jean-Michel Blanquer.
Le problème, c'est que l'Éducation nationale, c'est beaucoup plus important en termes point de vue,
c'est le danger.
Et budgétaire et symboliquement que le ministère de la Culture, qui est un des problèmes. Mais du coup, je vois que le temps file et que l'absence de Stéphane Hilel nous a fait esquiver un peu certaines questions quand même qui ont été abordées, notamment l'été dernier au Festival d'Avignon par votre successrice, je ne sais pas comment on dit en français, Michel Aurier, Réginald Chandeau,
qui
était temps. Non, je ne suis pas pour la masculinisation des termes comme ça. Mais Réginald Chandeau donc, disait qu'il était temps que le mur de Berlin entre le théâtre public et le théâtre privé tombe et qu'il fallait peut-être, c'était peut-être aussi un souhait, pas si évident que ça de la part du, du syndicat du théâtre privé, que la taxe fiscale puisse bénéficier à tous. Arnaud Meunier, est-ce que ça, c'est un sujet aujourd'hui, ou est-ce que c'est au gouvernement, à l'État de décider ce qu'il
doit faire? Je pense que c'est plus vraiment un sujet. Je pense que le théâtre privé a une difficulté qui est spécifique, qui est liée que, par exemple, ils ont pris de plein fouet la question de la vague des attentats et que les salles se sont vidées de manière dramatique dans le théâtre privé à ce moment-là.
Dans le théâtre public, c'était quand même les bons spectacles marchaient. On va dire ça comme ça méchamment.
Mais toujours dans le théâtre public, dans le théâtre public, il y a quand même le fait que nous avons une fidélisation de nos spectateurs qui fait que la chute de spectateurs a été moins compliqué. Voilà. On peut le dire comme ça. Donc actuellement, le théâtre privé a des soucis financiers et ils cherchent des solutions à leurs soucis financiers. Donc il y a un rapport qui a été commandé et à un moment donné, une des pistes de ce rapport consistait à taxer la totalité des billetteries, y compris les billetteries de théâtre public. Donc effectivement, on a réagi de manière un peu préventive, mais l'attaque étant la meilleure des défenses, on a agi et je pense qu'on a bien fait d'agir. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de sujet avec le théâtre privé, parce que je pense qu'il y a une complémentarité en France qui est assez exceptionnelle. Parce que d'une certaine manière, je ne sais pas si on le dira tout à l'heure, mais j'ai envie de le dire maintenant. Sur le fait
dites-le
de,
parce que l'heure tourne.
Avons notre président de la République avec Angela Merkel en ce moment. Le point commun entre la France et l'Allemagne, le moteur franco-allemand, c'est aussi la culture. S'il y a un deuxième pays européen qui investit autant d'un point de vue culturel, c'est les Allemands. De manière très différente, parce que chez nous, c'est très porté par le secteur indépendant, donc par les compagnies, alors que chez eux, c'est plutôt porté par les institutions, le secteur de la création. Mais ils investissent quand même beaucoup dans la culture. Et je pense que notre président, à mon avis, c'est-à-dire que je pense que ni Françoise Nyssen, ni Jean-Michel Blanquer ne pourront rien faire s'il n'y a pas une volonté présidentielle forte derrière. Et je pense que comme on a un président qui veut bouger les lignes, on est tenté de lui dire mais chiche, allons-y. C'est-à-dire du coup, ayons une ambition très puissante et même à l'échelle européenne et commençons par le moteur franco-allemand et surtout du coup accompagner cet élan extraordinaire dont on parle tant et y compris mettons en complémentarité l'éducation populaire et le milieu de la création. Il n'y a pas d'opposition à avoir.
Michel Aurier, avant de filer à la Philharmonie.
Je pense que il y a dans le théâtre privé aussi un mouvement générationnel comme il y a dans le théâtre public qui est à l'œuvre. Et qu'on va voir le théâtre privé bouger de ce point de vue-là. Je pense à...
Il bouge déjà.
Oui, je pense à l'ouverture.
Mais il se concentre entre peu de propriétaires. Est-ce que ça ne va pas l'empêcher de bouger?
Alors, il y a ce problème
à
de
Paris,
concentration.
En tout cas.
Mais
le théâtre privé, c'est très parisien, pour le coup.
Deux faits qui me paraissent importants qu'il faudra suivre. Un, c'est très anecdotique peut-être, mais l'administrateur du TNS, du Théâtre National de Strasbourg, est devenu, je crois, le directeur de la stratégie chez Dumonté.
L'un des propriétaires de salles parisiennes.
L'un des nouveaux grands propriétaires de salles parisiennes, très dynamique, qui fait beaucoup de choses. Donc c'est quand même c'est un mouvement qui était impensable.
Idem pour la Scala.
Et la Scala, c'était mon deuxième exemple. La Scala, qui est le nouveau théâtre qui ouvrira bientôt à Paris, qui va être un théâtre privé, s'intéresse de très près à des artistes qui sont majoritairement des artistes qui viennent du public. Donc je pense que cette histoire de mur de Berlin, en tout cas, est beaucoup plus poreux. Et finalement, on parle d'artistes, on parle de textes, on parle de public. Et à un endroit, je pense que cette chose-là peut aussi évoluer dans le sens d'une plus grande fluidité.
Bon, on vous laisse filer, Michel Aurier, parce Merci. Que bah, du coup, on n'a pas parlé de comment faire venir du public nous voir à Radio France. Ça, on ferait une autre émission, ça vous occupe tous les jours, toute l'année. Donc, on vous donne votre ticket de sortie, mais je profite du départ de Michel Aurier, n'écoutez plus. Michel, Nathalie Hennig, quand le ministère planche, ce qui est quand même le cas, sur l'amélioration de l'offre culturelle en diminuant la dépense publique, dans quelle logique il est, le ministère, à ce moment-là. Il doit faire mieux avec moins d'argent. Ça, c'est valable pour tous les secteurs de la culture, c'est valable pour le spectacle vivant aussi.
Il me semble que la question ne doit pas être posée de cette façon-là. Elle doit être posée mieux pour qui et pourquoi. C'est ça. Si c'est mieux juste pour augmenter l'offre, c'est pas ça qui va résoudre les problèmes qui sont de l'ordre du ministère, c'est-à-dire les problèmes régaliens. Les problèmes régaliens au ministère de la Culture, c'est premièrement le patrimoine, deuxièmement l'aide à la création et troisièmement la démocratisation des publics. C'est les seuls domaines sur lesquels le public, l'État, a à intervenir, puisque pour le reste, le privé se débrouille très bien. Bon. Donc sur le patrimoine, on essaye avec le loto. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi on a abandonné un projet qui me paraissait très judicieux, qui avait été proposé il y a quelques années, qui était de taxer d'un euro par nuitée les hôtels de luxe à Paris pour abonder le patrimoine. Les touristes viennent pour voir notre patrimoine et les hôtels de luxe, à mon avis, ça aurait pas changé grand-chose, un euro par nuitée. Et, et c'est simplement les syndicats qui ont trouvé que c'était une façon de privatiser la question culturelle, ce qui me paraît quand même un très mauvais argument. Mais bon, donc je serai pour qu'on remette sur le tapis cette proposition pour le patrimoine. Par ailleurs, la question du mieux, encore une fois, elle ne peut pas se régler par plus d'offres de création qui vont, encore une fois, profiter avant tout aux créateurs et aux programmateurs. Là, je crois qu'il faut arrêter avec cette spirale inflationniste qui dure depuis 40 ans. La question du mieux, elle doit se jouer là où il n'y a pas eu assez de progrès, c'est-à-dire dans le domaine, encore une fois, de l'ouverture à des nouveaux publics. Et il y a des moyens pour ça. Simplement, ces moyens ne sont pas toujours utilisés comme ils devraient l'être, notamment parce que le ministère raisonne à partir de son périmètre d'action. C'est très facile de donner une subvention à un théâtre, il suffit d'avoir de l'argent pour ça. En revanche, travailler hors de son périmètre d'action, du côté de l'éducation nationale, de la télévision ou d'Internet et de l'éducation populaire, c'est beaucoup plus difficile, mais à mon avis, c'est là qu'il faut aller. Donc, c'est pas en termes de mieux, c'est autrement.
Arnaud Meunier qui veut prendre la parole, mais je rajoute cette question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vos consoeurs, confrères, artistes à la tête d'institutions qui peuvent se plaindre, pas forcément devant des micros, qu'on leur demande davantage toujours d'action culturelle au détriment de leur... déploiement de leur génie créatif, je dis ça avec le sourire évidemment. C'est pas votre cas, puisque vous faites les deux très bien, puisque vous c'est en même temps. Mais comment il y a cette demande, il faut que les artistes fassent tout, pompiers sociaux, créateurs géniaux, salles remplies.
Bon, alors d'une part, je pense que quand même il est très très loin le temps de la subvention qui était là uniquement pour soutenir le génie créatif des artistes. Hein. C'est-à-dire que du coup, ça a quand même beaucoup beaucoup évolué ça aussi. Je pense d'abord, je voudrais rappeler comme que les subventions que nous recevons sont des subventions de complément de prix. Donc le premier but de la subvention, c'est de vous offrir des tarifs très bas à nos publics. Hein. Ça, c'est quand même la mission première, je le rappelle quand même. Et puis ensuite, par rapport aux artistes, alors, je ne sais pas, reste-t-il quelques artistes dans leur tour d'ivoire qui ne se préoccupent pas d'aller à la rencontre d'autres spectateurs,
ne
de nouveaux publics ?
Ne me tentez pas, je pourrais vous donner des noms.
Vous avez sûrement une liste, j'imagine. Oui, j'imagine.
Et vous la connaissez.
Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une nouvelle génération quand même qui est venue à la tête des maisons.
Bien sûr.
Cette nouvelle génération, elle vient des compagnies.
Les collectifs.
Même les jeunes quadras, j'ai l'impression quand même qu'ils ont pour point commun aussi d'être des compagnies qui n'ont pas connu l'Erlang. Hein, même si moi je pense que il faut, je salue l'héritage Lang, hein, c'est-à-dire qu'on n'en serait pas là si voilà, il n'y avait pas eu Malraux et Lang, et que d'une certaine manière on est aussi orphelin de ça, donc de cette ambition-là, et avec le soutien présidentiel de ce moment-là. Mais cette nouvelle génération, les compagnies étaient déjà très en difficulté. Hein, moi quand j'ai monté ma compagnie en 97-98, mon prof de théâtre me disait quel courage. Donc on voit bien que ça s'est pas amélioré. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, les jeunes élèves que j'ai actuellement dans mon école, je suis nourri par leur enthousiasme, nourri par leur énergie. C'est pour ça que je ne peux pas me résoudre à un malthusianisme. Ça ne peut pas être la demande contre l'offre. Je pense qu'il y a un effort collectif à accompagner cet élan, surtout qu'il ne coûte pas très cher cet élan. C'est très peu les budgets de la culture en France. Et ça fait partie de l'ADN français. Là, je rentre d'un voyage à Montréal où on est en train de monter un projet avec l'école. Le Canada, c'est passionnant parce que vous avez d'un côté le modèle anglophone qui est calqué sur le modèle américain, avec donc uniquement du soutien privé, du mécénat et beaucoup de communautarisme, disons-le. Puis d'un côté, le modèle francophone qui est très calqué sur le modèle français. Donc c'est quand même pas rien de se rendre compte que c'est aussi notre ADN. C'est aussi notre culture et c'est aussi ce qui fait une différenciation française dans le monde entier et qu'on nous envie. C'est pas un hasard aussi si les artistes du monde entier viennent travailler chez nous. Et donc je pense que c'est pas grand chose qu'il y a à dépenser du point de vue de la nation. J'ai la sensation quand même qu'on est dans un pays qui est pas encore en récession. Donc on a un PIB qui continue, on a toujours de la croissance, même si on aimerait en avoir plus, etc. Donc c'est pas grand chose l'effort à faire.
Fabienne Pascot, pour presque conclure
quasiment cette émission. Oui, non, mais je voulais juste poser une question à Arnaud Meunier, dont l'enthousiasme et la vivacité donnent chaud au cœur. Mais quand même à Avignon, quand Régina Tchando a poussé un petit peu ce coup de gueule, a eu le courage de pousser ce coup de gueule, les centres dramatiques ont tous râlé. Vous n'étiez pas content, vous vouliez plus d'argent. Alors là, on a l'impression que tout est formidable et que tout va bien. Mais quand même, il y a quand même eu un mouvement. D'ailleurs,
une petite minute pour répondre, Arnaud Meunier.
Disons que on a la sensation de faire un travail assez incroyable. C'est-à-dire qu'on fait, on est sur le terrain au quotidien. C'est-à-dire que le travail à Centre Dramatique, c'était dans l'hyper proche. Travailler dans avec les associations d'éducation populaire, les centres sociaux, les lycées empêchés, les publics empêchés, les lycées professionnels, etc. Donc ça, c'est l'hyper proche au quotidien. Et en même temps, d'aller à Shanghai pour aller jouer son spectacle. Et en même temps, de monter un partenariat avec Los Angeles pour son école. C'est ça, notre quotidien. Et donc, c'est vrai qu'on a du mal à se laisser dire que notre modèle économique est dépassé et que la solution, c'est d'aider le théâtre privé. Donc je pense que c'était pas exactement ce que voulait dire Regina Tchando, mais on peut dire que les paroles étaient un peu maladroites et qu'effectivement on sort aussi d'un quinquennat Hollande où on a été maltraité globalement. Et donc je pense qu'on a un désir aussi de se dire c'est pas uniquement de l'argent dont on a besoin, c'est aussi de la reconnaissance et cette reconnaissance d'une réalité que les choses ont bougé et qu'il y a un peu de persistance rétinienne qui est un peu pénible pour l'ensemble de mes consoeurs et confrères.
Bon, ben on fera
oui, mais là,
points.
Avec 10 ministres en 20 ans depuis Catherine Trottmann, s'il n'y a pas une légitimité, une longueur de l'action de ministre de la Culture, je ne sais pas comment on pourra faire.
Parce que par l'envie, on le sait, du président de la République ou de la présidente, quand
oui,
ce sera
Jacques Lang n'aurait pas été Jacques Lang sans Mitterrand.
Ça, c'est certain. Bon, merci à vous. On va continuer cette discussion pour les siècles des siècles. Merci à vous, Nathalie Hennick, Fabienne Pascaud, Arnaud Meunier et Michel Aurier d'avoir participé à cette dispute Dismoudre, donc ce soir spécial Grimaudre et dispute consacrée à la politique culturelle, ici concernant le spectacle vivant. Pour finir tout à fait le jeu de la dispute, on ne l'oublie pas, et c'est Grégoire Diffior qui nous rejoint pour nous rappeler la question d'hier et sa réponse.
Dans quel pays a eu lieu au début des années 2000 la reprise de l'usine Zanon par ses employés? Et la réponse était l'Argentine.
Ce soir, nous avons gagné des invitations pour l'exposition Roman Photo. C'est en ce moment au MUCEM à Marseille. La question?
Quel chanteur français fut la vedette du premier roman photo du magazine Nous Deux?
Je vais écouter lundi pour connaître la réponse. La réponse, si vous l'avez, vous l'envoyez avec vos coordonnées postales à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast. Lundi à 19h, une dispute consacrée au spectacle vivant. On sera en compagnie de Marie-Jo Essirache, Lucille Comeau et René Solis à notre affiche Mélancolie, adaptation de Tchekhov par Julie Deliquet. Festen, d'après Thomas Winterberg et Mongus Rukov, mise en scène Cyril Test et puis Le Malade Imaginaire de Molière, mise en scène par Michel Didim.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'exposition Dans la peau d'un soldat, de la Rome antique à nos jours. D'Afghanistan, de nombreuses solutions ont été conçues pour répondre au quotidien des soldats qui doivent subvenir à leurs besoins, tromper l'attente, tenir dans des conditions difficiles. Découvrez plus de 300 objets évoquant la condition universelle et la vie courante des combattants en campagne. Dans la peau d'un soldat, de la Rome antique à nos jours, jusqu'au 28 janvier au Musée de l'Armée à Paris. Un partenariat France Culture.
Et votre soirée sur France Culture à 21h, c'est Romain Bec de Lièvre qui recevra dans l'émission Par les temps qui courent la chanteuse et compositrice Anne Sylvestre. Avant cela, dans les carnets de la création, Aude Lavigne sera au Confort Moderne à Poitiers avec Yann Chevalier. Fiction de France Culture à 20h30, dernier épisode du Docteur Robinoff de Chaim Potok. Et tout de suite, à voix nue.